Vous écoutez, on lit pour vous.
Des traitements expérimentaux pour des patients à court d'options. Un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 25 juin 2025 dans La Presse. Nous sommes au quatrième étage du centre de recherche du CHUM, dans une unité réservée exclusivement à l'innovation médicale. Ici, les médecins proposent des traitements expérimentaux aux patients atteints de cancer ou d'autres maladies pour qui les approches classiques n'ont pas fonctionné. Parfois, certains médicaments y sont même testés pour la première fois chez l'humain. Le but de l'unité d'innovation thérapeutique, UIT, faire gagner du temps aux patients qui ont épuisé toutes les options de traitement disponibles, résume la docteure Rahima Jamal, directrice médicale de l'unité et hémato-oncologue. Ces patients viennent de partout au Québec, de l'Abitibi aux îles de la Madeleine, pour participer à ces essais. Cet endroit, qui rappelle un mini-hôpital, est composé de quelques chambres et d'une dizaine de civières. Les patients participent aux études médicales les plus risquées pour tester de nouveaux médicaments et traitements. Récemment, une étude a été menée pour modifier le microbiote intestinal de patients atteints de cancer grâce à une greffe de sel. On a donné 40 pilules de caca de donneurs sains en 30 minutes, à des patients atteints de mélanome et du cancer du poumon, dit la docteure Jamal. On avait peur que les patients disent « wesh » ou aient des nausées. Mais ça rentre au poste. Il y en a qui mangent ça en 10 minutes, lance-t-elle en précisant que ça n'a pas de goût et que c'est inodore. Certains de ces patients se sont trouvés en rémission après le traitement. Ce qui nous a frappé, c'est à quel point c'est efficace, dit la docteure Jamal. L'équipe médicale est en train de confirmer ces résultats prometteurs dans une nouvelle étude. Cet essai sur la greffe de sel est l'une des 126 études menées ou en cours dans l'unité. Les domaines de recherche sont variés, mais la majorité porte sur le traitement du cancer. La docteure Rahima Jamal rappelle que on ne fait pas de promesses aux patients. On leur dit que c'est expérimental et qu'on ne peut rien leur promettre. Les chances de tomber sur une molécule qui va changer le cours de leur cancer sont d'environ 15 %. Quand on leur donne cette information, un patient sur deux va décider de ne pas participer. L'unité, qui regroupe une quarantaine d'employés, réalise des études pour les chercheurs des centres hospitaliers et pour des entreprises pharmaceutiques. L'objectif est en premier lieu de s'assurer que l'administration du traitement est sécuritaire. Des échecs et des succès. Pour certaines études, les patients sont surveillés en continu, jour et nuit. Certains peuvent y séjourner plusieurs jours. Les civières sont séparées par des rideaux avec un poste d'observation situé en face des lits. En cas de réaction grave à la suite d'un traitement, le patient est dirigé vers les soins intensifs ou les urgences. Puisque l'efficacité n'a pas encore été testée, tout peut arriver. L'équipe est également formée pour gérer les réactions graves. Au bout du corridor, un mannequin est installé sur une civière. Cette salle est destinée à simuler les cas de complications graves. Chaque mois, les professionnels de la santé de l'équipe doivent venir tester leurs connaissances grâce à un scénario différent. L'unité a vu le jour en 2018. Au CHUM, on fait partie des rares endroits en Amérique du Nord où on peut vraiment partir d'une simple idée en laboratoire la tester sur des modèles animaux, faire les premières études chez l'humain et peut-être même aboutir à un traitement utilisé partout dans le monde, dit le directeur de l'unité, Xavier Levac. Il faut être patient. Pour trouver une molécule efficace en phase 1, il faut en tester 10. C'est comme la loterie. Tu vas finir par tirer le billet gagnant. C'est juste une question de temps. Il faut juste être patient, dit la docteure Rahima Jamal. Si le traitement ne donne pas les résultats escomptés, les patients sont réorientés vers le centre hospitalier où ils étaient suivis. Si l'étude est concluante, il faut généralement compter entre 8 et 15 ans pour qu'elle soit commercialisée. Entre-temps, l'unité permet à notre population québécoise d'avoir un bassin de thérapie plus large, dit Xavier Levac. Dans certains cas, les nouveaux traitements montrent des résultats prometteurs. La docteure Diane Provencher, gynécologue et oncologue, se souvient d'une de ses patientes atteinte du cancer qui est sortie de l'unité avec une haie d'honneur. La médecin lui donnait à peine 6 mois à vivre. Elle a eu accès à un nouveau médicament et à sa sortie, elle était sans évidence de maladie. Ça a fait toute la différence. C'était des traitements expérimentaux pour des patients à court d'options. Un texte d'Alice Girard-Bossé, paru le 25 juin 2025 dans La Presse.
À fou, grandir entre deux cultures. Un texte de Clémence Tessier paru le 10 juillet 2025 dans La Liberté. Comment se construit-on quand on grandit entre deux cultures aussi distinctes que le Japon et le Canada francophone? C'est à cette question que tente de répondre AFU, H-A-F-U, un documentaire scénarisé, réalisé et incarné par Vincent Blais-Chiokawa. À travers sa propre histoire, il explore les tensions intérieures vécues par les enfants issus de familles mixtes et la quête d'une identité pleine plutôt qu'à moitié. Né à Vancouver d'un père japonais et d'une mère québécoise, Vincent Blais-Chiokawa déménage au Manitoba à l'âge de 2 ans. Il grandit à Sainte-Anne et fait sa scolarité en français, entre judo, culture canadienne-française et fascination pour ses racines japonaises. Mais dès l'école primaire, quelque chose le distingue. En 4e, 5e et 6e année, je me rendais déjà compte que le mode de vie de ma famille était vraiment différent de celui de mes amis, confie-t-il. En décalage avec l'entourage, il perçoit alors un léger décalage, une manière de penser, de se comporter, de discuter qui ne correspond pas tout à fait à celle de son entourage. Ce sentiment d'écart se transforme peu à peu en un tiraillement plus profond qu'il ne comprend pleinement qu'à l'âge adulte. Dans « À fou », Vincent met en lumière cette dualité intérieure, celle d'avoir grandi à l'intersection de deux cultures fortes, avec leurs propres valeurs, leurs propres codes. « J'ai toujours ressenti une certaine distance, comme si je n'étais jamais assez japonais pour les Japonais, ni assez canadien pour les Canadiens », résume-t-il. Cette tension identitaire devient le fil conducteur du documentaire. Avec « À fou », Vincent Blais-Chiokawa ne cherche pas à donner une réponse définitive, mais à créer un espace de dialogue. « On m'a proposé d'être le véhicule de ce sujet », pour parler aussi des autres. J'ai voulu ouvrir une discussion. Le projet du documentaire naît au moment où Vincent Blais-Chiokawa s'apprête à partir au Japon avec son père pour rendre visite à un membre de la famille. Ce voyage marque le début d'un processus de réflexion sur son identité et son rapport au pays de son père, qui, lui, n'a jamais voulu devenir citoyen canadien. Vincent Bléchier au Kawaï y interroge des proches, dont sa mère et sa sœur, ainsi que des spécialistes japonais et canadiens, pour mieux comprendre les dynamiques intérieures que vivent celles et ceux qui grandissent à l'intersection de cultures différentes. Une quête personnelle, mais universelle aussi. Ce sentiment, il le partage aujourd'hui avec d'autres « afu », un terme japonais qui signifie littéralement « moitié ». Le mot, devenu central dans sa réflexion identitaire, a d'abord été une découverte. Le documentariste explique « Mon père n'a jamais utilisé ce mot-là en grandissant. Ce n'est que quand ma sœur a rencontré une équipe de judo japonaise à Vancouver qu'on l'a appelé « afu » pour la première fois. C'est comme ça que le mot est entré dans notre vocabulaire familial. À travers le documentaire, le jeune scénariste choisit de se réapproprier ce terme longtemps utilisé de façon péjorative pour désigner les personnes métisses. Pour lui, ce mot devient un point de départ, un outil d'exploration. Me réapproprier ce terme, c'est aussi une manière de mieux me comprendre, confie-t-il. L'œuvre dévoile aussi les contrastes hérités de ses deux parents, une sensibilité artistique extravertie inspirée de sa mère, une rigueur plus critique et réservée transmise par son père, et comment ces facettes parfois opposées coexistent, dialoguent, s'enrichissent. Ce n'est pas aussi simple que de dire « ça, c'est mon côté japonais » ou « ça, c'est mon côté canadien ». Mes parents aussi ont assimilé des éléments de la culture de l'autre. On est tous des mélanges, précise Vincent Blais Shiokawa. Introspection. À travers cette introspection filmée, il touche une corde universelle, celle du sentiment d'entre-deux, du besoin d'appartenance. J'ai compris que ce que je vivais, je n'étais pas le seul à en faire l'expérience. D'autres, à fou, ressentent cette même pression. Aux jeunes qui vivent un tiraillement identitaire semblable, Vincent Bléchier au Kawaï souhaite offrir du réconfort. Si vous vous sentez à part, c'est normal. Ce que vous ressentez est valide. On n'est pas obligé de choisir un seul côté. On peut habiter cet entre-deux et en faire quelque chose de beau. Aujourd'hui, Vincent Bléchier au Kawaï ne voit plus cette dualité comme un obstacle, mais comme une richesse à apprivoiser. Afu, au final, devient un outil pour naviguer dans cette zone grise. Un espace où l'identité ne se divise pas en parts égales, mais se compose et se façonne, au fil du temps, des rencontres et des prises de conscience. C'était Afu, grandir entre deux cultures. Un texte de Clémence Tessier paru le 10 juillet 2025 dans La Liberté.
Ruée vers les parcs nationaux de l'ESSEPAC. Un texte d'Annabelle Caillou paru le 26 juin 2025 dans Le Devoir. En 15 ans, la fréquentation des parcs nationaux a presque doublé au Québec, atteignant un sommet historique en 2021-2022 au cœur de la crise sanitaire. Si l'achalandage a depuis légèrement reculé, il reste nettement au-dessus des niveaux pré-pandémiques. Et avec la guerre commerciale qui freine les séjours aux États-Unis, l'été devrait être encore bien occupé pour la Société des établissements de plein air du Québec, CEPAC. La pandémie a été comme une grande prescription de nature à la population. Plusieurs personnes ont eu un éveil et ont gardé cette habitude de visiter nos parcs même après la réouverture des frontières, fait remarquer Martin Soucy, président-directeur général de la CEPAC. Dans les 15 dernières années, la fréquentation du réseau de la CEPAC, 24 parcs et 13 réserves fauniques, a connu une augmentation de 58 %, passant de 5,9 millions de journées de visite pour l'année 2009-2010 à 9,4 millions en 2023-2024, selon des données obtenues par Le Devoir. Au moment où ces lignes étaient écrites, les résultats pour l'année 2024-2025 n'étaient pas encore disponibles. Par contre, la CEPAC a déjà calculé une hausse de 7,2% de la fréquentation de ses parcs nationaux pour la période du 1er avril 2024 au 30 septembre 2024, ce qui laisse présager un bilan annuel plus élevé que l'année précédente. De l'avis de Martin Soucy, si la tendance était déjà à la hausse dans les dernières décennies, la pandémie a accéléré le mouvement en créant de nouvelles habitudes chez plusieurs Québécois. En 2021-2022, au cœur de la pandémie de COVID-19, l'achalandage des parcs nationaux a atteint un sommet avec plus de 12 millions de jours de visite au compteur, dans un moment où les voyages à l'extérieur des frontières n'étaient pas recommandés. Des rabais convaincants. Il faut dire que le gouvernement Legault a mis les bouchées doubles au début de la crise sanitaire pour justement encourager le tourisme au Québec. Une enveloppe de 5 millions de dollars a permis à la CEPAC d'offrir un rabais de 50 % sur 140 000 cartes annuelles, donnant accès à tous les parcs du réseau pendant 12 mois. En seulement 72 heures, toutes les cartes ont trouvé preneur. En tout, 220 000 cartes annuelles réseau ont été vendues en 2020, c'est presque 4 fois plus que l'année précédente. En 2021, la promotion était de retour et a connu le même succès, pour un total de 256 000 cartes annuelles vendues. Ce qu'on voit, c'est que chaque fois qu'on propose une vente au rabais, on gagne 37 % de nouveaux adeptes qui ont de fortes chances de revenir l'année suivante, explique le PDG de la CEPAC. Preuve à l'appui, en 2022, la carte annuelle du réseau s'est vendue uniquement au prix courant, soit 83,49 $, et pourtant, 116 000 personnes se la sont procurées, soit 2 fois plus qu'avant la pandémie. Vers de nouveaux records? Dans le contexte actuel de guerre tarifaire avec les États-Unis, la CEPAC s'attend à un été achalandé sur ses sites, nombre de Québécois ayant tiré un trait sur leurs vacances chez nos voisins du Sud. Sans pouvoir divulguer de données préliminaires, la CEPAC soutient que l'effet de la guerre commerciale se fait ressentir depuis plusieurs mois dans les réservations estivales. Reste qu'on devrait se tenir loin des records de fréquentation atteints durant la pandémie, croit son PDG, rappelant que, cette fois-ci, les frontières sont grandes ouvertes et les options de rechange nombreuses. Si l'on se fie aux ventes de guides touristiques en librairie des derniers mois, les Québécois s'intéressent particulièrement à l'Europe et aux provinces maritimes. Les différentes régions québécoises restent tout de même dans les palmarès des ventes. Une situation qui ne semble pas déplaire à Martin Soucy. À la CEPAC, on a aussi une mission de conservation, donc l'augmentation de la fréquentation a ses limites. À 12 millions de jours de visite par année, si c'est mal réparti, on peut se retrouver avec des sites où ça pourrait ne pas être soutenable, souligne-t-il. Il donne l'exemple du célèbre parc californien de Yosemite qui a été victime de son succès durant la pandémie. En 2021 et en 2022, un système de réservation régulait l'accès des véhicules en période de forte affluence afin de préserver le parc. Abandonné depuis, cette méthode de contingentement est de retour cet été. Je pense qu'en ce moment, dans nos parcs, c'est bien balancé. On n'est pas en surtourisme, soutient M. Soucy. La CEPAC pourrait-elle en venir à limiter l'accès à certains parcs advenant une augmentation importante et continue de la fréquentation dans les années à venir? On n'a pas de nombre absolu, mais pour un réseau de cette taille-là, il faut être préventif et garder cet équilibre entre l'accessibilité et la mission de conservation, répond-il. palmarès des parcs nationaux les plus achalandés. Année après année, le palmarès des parcs nationaux les plus prisés reste sensiblement le même. On y trouve, sans grande surprise, les parcs les plus proches des grands centres urbains. Ainsi, les 5 parcs les plus fréquentés durant l'été 2024, du 1er avril au 30 septembre, étaient Parc national d'Oka, 721 548 jours de visite, Parc national du Mont Harford, 581 198 jours de visite, Parc national du Mont Saint-Bruno, 556 377 jours de visite, Parc national du Mont Tremblant, 474 435 jours de visite, Parc national de la Jacques-Cartier, 330 271 jours de visite. C'était « Ruée vers les parcs nationaux de la CEPAC », un texte d'Annabelle Caillou paru le 26 juin 2025 dans Le Devoir.
Trump nous trouve désagréable, c'est bon signe. Un texte d'Alexandre Sirois, paru le 25 juillet 2024 dans La Presse. Ces vacances à New York que vous avez annulées? Ces fraises californiennes que vous n'avez pas achetées? Cet abonnement à Netflix que vous n'avez pas renouvelé? Ce vin américain que la SAQ a de ses tablettes retirées? Comme à peu près tout le monde, vous vous êtes sûrement demandé si c'était utile. La réponse est oui, si on se fie aux récentes déclarations de l'ambassadeur des États-Unis au Canada, Pete Hoekstra. Cet ancien politicien républicain participait lundi, dans l'État de Washington, à une conférence de la Pacific Northwest Economic Region Foundation. Ses propos ont été rendus publics parce qu'ils ont été enregistrés par un des participants à l'événement. Citation. « Que les Canadiens restent chez eux, c'est leur affaire, vous savez. Je n'aime pas ça, mais si c'est ce qu'ils veulent faire, c'est correct. Ils veulent interdire l'alcool américain, c'est correct. » Fin de citation, a-t-il dit. Puis il a ajouté, et c'est ici que ça devient particulièrement intéressant, que si, citation, « le président et certains membres de son équipe ont qualifié le Canada de méchant et de désagréable, » fin de citation, c'est, citation, « à cause de certaines de ces mesures. » Fin de citation. La première réaction pertinente à avoir, c'est de se dire « tant mieux ». Pour qu'un boquetage fonctionne, il faut qu'il embête, qu'il irrite, jusqu'à devenir, si possible, insupportable et déstabilisant. Ça semble être en train de se produire. La deuxième réaction la plus judicieuse serait de continuer, voire d'accentuer ce boycottage. L'initiative rappelle à l'administration Trump que nous ne nous laisserons pas manger la laine sur le dos et met de la pression sur le président et ses négociateurs. Sans le vouloir, c'est ce que l'ambassadeur des États-Unis au Canada nous encourage à faire. Espérons donc que ces déclarations, tout comme les données récentes qui démontrent que le boycottage fait mal à l'économie américaine, donneront un nouvel élan à cet effort mené d'un océan à l'autre. Car s'il a du succès, pourquoi y mettrions-nous fin alors que nous subissons encore les assauts de l'ogre américain? Parmi les données les plus significatives, il y a celle publiée il y a 2 semaines par Statistique Canada au sujet des résidents canadiens qui traversent la frontière en voiture pour se rendre aux États-Unis. Elles ont de quoi donner des maux de tête aux Américains. En juin 2025, on a constaté une baisse de 33 % du nombre de Canadiens qui sont revenus des États-Unis en voiture par rapport à juin 2024, soit quelques mois avant que Donald Trump soit réélu et décide de s'en prendre à nous. Il s'agissait, citation, du 6e mois consécutif au cours duquel une baisse a été enregistrée d'une année à l'autre, fin de citation, soulignait ma collègue Marie-Ève Maurras. L'impact d'un tel boycottage sur l'économie américaine est indéniable. Par ailleurs, Alors que les droits de douane de Donald Trump, notamment sur l'aluminium et l'acier, nous font mal, aux États-Unis, des secteurs précis sont également touchés par nos représailles. On a ainsi appris cette semaine que les ventes de spiritueux américains au Canada ont chuté, en mars et avril dernier, de 66,3 % par rapport à la même période l'année précédente. Les importations de vins américains au Canada ont diminué de façon encore plus spectaculaire. En avril 2025, on rapporte une baisse de 94 % par rapport à avril 2024. Si l'économie canadienne est malmenée par l'administration américaine, à l'inverse, la riposte de tout un chacun a des impacts positifs de ce côté-ci de la frontière. Car l'idée n'est pas uniquement de bouder les États-Unis et leurs produits. On a tout avantage, plusieurs l'ont compris, à acheter des produits faits ici et à voyager à l'intérieur de nos frontières. Un exemple? Le Devoir rapportait cette semaine que les ventes des boutiques de plein air au Québec sont dopées par le fait que nous serons nombreux à passer nos vacances ici cet été. Entendons-nous, ce boycottage n'est pas une décision prise de gaieté de cœur. Il faudrait que Pete Hoekstra soit de mauvaise foi pour ne pas le comprendre. Elle se veut une solution de dernier recours. Elle a été adoptée face à un géant qui nous intimide, qui impose des droits de douane dans l'espoir de nous voir ramper devant lui et lui accorder tout ce qu'il souhaite, et qui a même pris plaisir à répéter au cours des derniers mois qu'il rêvait de nous annexer. Attendez un instant, là. C'est nous qui serions méchants et désagréables? Dissipons ici tout malentendu pour Pete Hoekstra et ses concitoyens qui se sentiraient lésés. C'est Donald Trump qui a déterré la hache de guerre. On ne fait que se défendre. J'ajouterai une chose importante. Nous continuons à accueillir les Américains qui viennent ici avec politesse et courtoisie. Mon collègue Vincent Brousseau-Pouliot l'a démontré le mois dernier en recueillant des témoignages d'Américains ravis de leur séjour et de notre hospitalité. Et ça, ça ne cessera pas, car nous ne sommes ni méchants ni désagréables. Une dernière chose mérite d'être clarifiée pour l'ambassadeur des États-Unis au Canada. Il existe une solution très simple pour que ce conflit se termine. Le président américain n'a qu'à y mettre fin. D'ici là, qu'il ne se surprenne pas si nous continuons à résister autant que faire se peut à cet assaut indécent de la part de l'administration d'un pays qui a été pendant si longtemps notre plus grand allié. C'était « Trump nous trouve désagréable, c'est bon signe », un texte d'Alexandre Sirois, paru le 25 juillet 2025 dans La Presse.